une histoire particulière. Les tueurs en série ont parfois une tête de tueur en série, parfois l'air de bons pères de famille et même parfois des gueules d'anges. Ils ont cependant tous en commun d'avoir eu le désir de tuer un être humain, d'avoir assouvi ce désir et d'avoir recommencé encore et encore. Parmi les plus célèbres tueurs en série français, il y a Michel Fourniret, Francis Holmes ou Guy Georges. Dans les années 20, on se souvient de Henri-Désiré Landru, le barbe bleue de Gambet. Dans notre histoire de ce week-end, retour en 1944, on vient de découvrir une trentaine de cadavres en plein Paris. Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet vous racontent la suite.
Par terre, sur le sol, un amoncellement de débris humains.
Là, on est vraiment plongé dans l'horreur. Vous avez des bras, vous avez des cages thoraciques.
Il y a des troncs, il y a des crânes, il y a des cuisses, il y a des bras. Il y a un corps entier coupé dans le sens de la longueur, en deux parties.
Là, vous avez la chaux, le monceau de chaux dans lequel étaient plongés les corps pour une première cuisson.
Et puis, de la grande chaudière, dont la porte est entrouverte, il y a un bras qui pend.
On brûlait pour la première fois les corps avant de les incinérer dans les chaudières.
L'affaire Petiot, par Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet.
Il a vraiment tout volé, si je puis dire. Il leur a volé leur âme, leur bien, leur vie. Et ça se retrouve aussi dans les éléments de photos de l'identité judiciaire qui sont donc au sein des archives de la préfecture de police.
Au numéro 21 de la rue Le Sueur.
Le 9 mars 1944,
Archivina Alain Decaux.
Une personne bien ennuyée, c'était bien Madame Marsay.
Décembre 1975.
De la cheminée du 21 rue Le Sueur s'élevait une épaisse fumée. Et cette fumée sentait horriblement mauvais. Alors, le premier jour, Madame Marsay n'a trop rien dit. Puis le 11 mars, le troisième jour, elle en a eu vraiment assez. Quand son mari est rentré à 18h30 de son travail, elle lui a dit, on ne peut pas supporter ça davantage. Regarde, le vent rabat la fumée dans la rue et c'est insoutenable.
Vous avez un œilleton là qui est assez massif d'ailleurs.
Anne-France Serregliani.
Qui lui permettait, une fois qu'il avait inoculé la substance létale, il voyait par cet œilleton d'une pièce annexe mourir ses victimes.
Alors M. Marsay a téléphoné à la police. Et peu de temps après, deux agents arrivés sur leur vélo sont allés à côté voir la concierge. Et la concierge leur a dit, ben oui, c'est vrai, l'hôtel a été vendu en 1941 à un certain docteur Petiot. Il habite 66 rue Comartin et j'ai même son téléphone, c'est Pigalle 77 11.
Vous avez là la poulie qui devait être là sur la photo et on imagine bien le poids du corps qui descend à la cave. Des corps qu'on suppose assez lourds quand même, inertes.
Les agents sont allés téléphoner au docteur Petiot. Une voix féminine leur a répondu au téléphone, allô, madame, est-ce que nous sommes chez le docteur Petiot? Oui, monsieur, ici la police, nous voudrions parler au docteur Petiot.
Nous avons donc la petite échelle.
Bonjour, messieurs, que se passe-t-il?
Qui mène à cette cave.
Alors, il raconte. Est-ce que vous êtes entré dans la maison? Dit la voix du docteur Petiot, très calme. Non, non, puisque c'est fermé. Très bien, j'arrive avec les clés, je serai là dans un quart.
C'est là où on est véritablement avec ces objets, en immersion dans le drame.
Alors, les agents attendent, le quart d'heure s'écoule. Puis enfin, vraiment, on ne peut pas attendre, parce que si c'est un feu de cheminée, on ne sait pas où ça ira. Et les agents vont téléphoner aux pompiers.
Vous avez la photo de la cour, de l'hôtel particulier, lorsque donc les sapeurs-pompiers arrivent.
Et quelques instants plus tard, la sirène caractéristique des voitures de pompiers, ils arrivent, ils déploient l'échelle, montent au premier étage, cassent une vitre, entrent dans l'hôtel, et là, ils vont vers la cage d'escalier, et c'est là, de la cage de l'escalier, que surgit l'odeur.
Vous avez le fauteuil club, la petite cheminée, là pour le coup, ce n'est pas la chaudière. Et véritablement, on passe du bien-être à l'enfer.
Ils descendent au sous-sol, là ils sont guidés par le bruit des chaudières, d'une chaudière qui ronfle. Et là, ce qu'ils voient est abominable.
Donc les pompiers découvrent le charnier.
Claude Quettel.
La police arrive. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qui arrive avec son vélo et sa remorque?
Le docteur Petiot à vélo, il ne se démonte pas.
Petiot, qui va se faire passer pour le frère?
Il s'approche d'un policier, lui demande s'il est un bon Français, lui chuchote à l'oreille qu'il s'agit là de collaborateurs, que des patriotes sont au courant, et puis il s'éclipse.
Petiot arrive sur la scène du crime et repart comme une fleur, et du coup il disparaît.
principe, c'était de se présenter comme le chef d'un nouveau réseau d'extradition pour sauver en fait des juifs ou des résistants qui voulaient être extradés en Argentine via l'Espagne, via un réseau qu'il a nommé par lui-même Flytox. Flytox, qui est quand même un produit insecticide puissant. Donc, il a choisi comme nom de réseau pour se vendre Flytox. Il y a toujours chez lui un élément qui aurait permis de se douter qu'il y avait un problème. Et pourtant, son aspect sérieux, son aspect scientifique, ses connaissances, son érudition, son aspect policé, extrêmement présentable, donne confiance. Et là encore, donc, comme les gens venaient pour être extradés, il leur demandait d'apporter tous leurs biens. Donc là, vous avez des couteaux d'argent, vous avez toute l'argenterie, les petits médaillons familiaux. Les gens apportaient tout. Il y a à la fois des choses qui valent énormément d'argent, qui ont beaucoup de valeur, mais d'autres qui, on le ressent, relèvent simplement à nouveau de l'intimité des victimes.
Comment opérer Petiot ? Il faut quand même aller convaincre quelqu'un que le fameux docteur Eugène, la filière du docteur Eugène, donc convaincre quelqu'un que vous allez l'aider à quitter la France. Le convaincre qu'il, dans une valise, il puisse mettre non seulement ses objets de première nécessité, mais aussi toutes ses économies. Plus le 25 000 francs qu'il faut payer pour avoir le droit de s'enfuir. Mais surtout, dans une valise, mettez le plus d'argent possible, parce que vous savez, en Argentine, la vie est chère. Conduire la personne dans l'anonymat et la discrétion la plus totale jusqu'à l'hôtel de la rue Le Sueur. Convaincre la personne de recevoir une injection. Ben oui, il faut être vacciné pour aller à l'étranger. Le regarder mourir, alors avec le fameux œil-ton. Et faire disparaître le cadavre. Bon, tout ça, en quelque sorte, à mi-temps. Je veux dire qu'il est aussi médecin, il a une vie de famille tout à fait paisible à côté de tout ça. Mais passe encore pour une victime à la fois. Mais il y a un moment, il en fait disparaître deux. Il me semble même qu'à un moment, c'est trois. Et en plus, pas des malheureux juifs persécutés et qui sont aux abois. Des truands qui ont peut-être même sur eux une arme. Comment est-ce qu'il a fait ?
Le premier piège, quand on essaie de caractériser Marcel Petiot,
Daniel Zaguri,
c'est de tomber, si vous voulez, dans une espèce de simplisme diagnostique qui consisterait à le mettre dans une case. Non, non. Quand vous reprenez l'ensemble de son parcours, vous voyez quand même que c'est quand même un parcours particulier. Hein. Donc un enfant qui aurait fait caca dans sa culotte assez tardivement, qui attirait l'attention parce qu'il était rebelle, en même temps intelligent, avec des capacités scolaires, mais avec un côté chahuteur, un côté rebelle.
Est-ce que Petiot était dans une famille toxique ? La réponse est oui. Sa mère est internée à Sainte-Anne. Mère aliénée, comme on disait à l'époque, et internée. Donc, placé en nourrice, père peu aimant, pour garder le vocabulaire psychiatrique à la mode, une enfance donc très, on va dire quand même assez malheureuse, perturbée, et très très vite dissipée, il est viré d'un collège à l'autre, il devient voleur, il est voleur. Est-ce qu'il est kleptomane déjà ? Mais enfin, il est déjà voleur.
À l'âge de 17 ans, il vole le courrier dans la boîte aux lettres d'un tribunal de grande instance. Alors on n'a pas très bien compris pourquoi.
Le petit Petiot, avec un bâton enduit de glu, a volé dans les boîtes aux lettres des tas de lettres. Alors il s'est amusé à envoyer les lettres des uns aux autres pour troubler les esprits. Par exemple, une dame qui écrit à son amant, il trouve très bien d'envoyer la lettre au mari. Ça, disons que c'est un jeu, mais quand il prend les mandats, qu'il veut aller les toucher, alors là, quand même, la police s'en mêle. Tribunal pour enfants. On le déclare inconscient, mais il est renvoyé du lycée.
Il va être interné pour la première fois à Fleury-les-Aubrais. Et là, c'est extraordinaire, parce que ça, c'est Petiot tout craché, parce qu'il est interné à Fleury-les-Aubrais. Et qu'est-ce qu'il va dire dans ses titres et travaux ? Il va simplement supprimer cet accent aigu, et il va dire « ancien interne de Fleury-les-Aubrais ». Juste un petit accent qui fait qu'on passe de l'interné à l'interne. Donc, à l'âge de 17 ans, déjà, il attire l'attention.
Alors, il y a toujours une sorte de coup de cymbale, de du destin qui fait que, hop, il sort de la case où il avait été mis. Alors d'abord, la Grande Guerre change tout, c'est-à-dire que les critères de surveillance, d'observation, les codes changent, et puis il va s'engager. Il s'engage en 1916, et d'un seul coup, voilà, on ne parle plus du fou Petiot, jusqu'à ce que ce soit les médecins militaires qui le déclarent fou pour de bon. Lorsque Petiot s'engage en 1916, pendant la Grande Guerre, qu'il est blessé au pied par un éclat de grenade, on l'envoie dans un hôpital militaire, mais la blessure n'est pas si grave, et donc il attend dans une ambiance qu'on peut imaginer, avec des blessés autrement atteints, et il entame un épisode de psychose.
J'ai sous les yeux les termes employés par les psychiatres qui l'ont réformé en 1919.
Archivina, juillet 1974.
Pour neurasthénie, dégénérescence mentale, dépression mélancolique, obsession et phobie. Et il a d'abord obtenu une invalidité de 40% et ensuite repassant devant une commission de réforme en septembre 1920, le service psychiatrique et la commission de réforme d'Orléans portent son invalidité à 100%.
Vous pouvez être assuré que les commissions médicales en pleine Grande Guerre n'étaient pas disposées à voir tout le monde un peu fou, parce que à ce moment-là, vous n'allez plus au front, vous n'allez plus combattre. Alors, il est placé en hôpital militaire, avec bel et bien un diagnostic de folie, et il va être pensionné, il va passer ensuite, dans les années qui suivent, derrière, devant des commissions militaires qui vont confirmer son état d'aliénation mentale. Alors, effectivement, ce qui est plus que curieux, c'est qu'il va tout de même pouvoir faire des études de médecine. Mais des études de médecine, aujourd'hui, on a la vision d'études de médecine qui durent 7, voire 8, voire 9 ans. À l'époque, au lendemain de la guerre, les études ont été raccourcies volontairement. Comme il avait commencé deux années de médecine en Bohème, hein, en suivant tout ça de très loin, parce qu'il est très instable, donc il se balade un peu partout, mais bon, ce n'est surtout pas un travailleur, Petiot. Et donc, il fait deux ans d'études. Il bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au lendemain de la Grande Guerre. Et donc, le voilà médecin. Alors, il s'installe presque aussitôt à Villeneuve-sur-Yonne, où il se taille une réputation plutôt favorable. Il la joue un peu médecin des pauvres, il est toujours disponible. Donc, il est considéré comme un bon médecin. Et ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il va commencer à dérailler, et ça ne va pas tarder, par des vols notamment, le gros bourg va se diviser en petiotistes et anti-petiotistes. Il va y avoir toute une partie de la population qui va défendre Petiot, qui le défendra encore au moment de son procès. Donc il allait avoir quand même une sorte de pouvoir un peu de séduction, d'envoûtement. Oui, pourquoi pas, il avait envoûté une partie de la population.
Est-ce qu'il avait de l'humour, ou est-ce que c'était un humour en quelque sorte involontaire? Mais il y a un côté facétieux, le vol de courrier dans la boîte aux lettres du tribunal. Les recherches sur la pompe à merde. Si on vous raconte ça, vous y croyez pas, hein. Le détournement d'électricité de la part de monsieur le maire. Il y a des choses, là, si vous voulez, qui irrésistiblement font rire.
Il va détourner d'électricité, vous imaginez? Vous êtes maire. Je crois même qu'à l'époque, il vient même d'être élu conseiller général. Et qu'est-ce qu'il fait, comme c'est un bricoleur? Il détourne le compteur pour ne pas payer d'électricité, alors qu'il est tout à fait capable de payer, apte à payer une note d'électricité. Donc des aberrations totales. Et il ne mord pas le tapis, à aucun moment, Petiot ne mord le tapis. Donc il se présente à chaque fois, et son avocat n'a pas de mal à le présenter, comme un irresponsable. Il a été suspect de quelques crimes, ne serait-ce que la disparition de sa petite bonne. Mais entre être suspect d'une disparition et puis être convaincu d'un crime, il y a quand même plus qu'une marge. Il y a aussi un meurtre un peu bizarre dans une ferme où la fermière a été assassinée. On lui a défoncé le crâne et puis après le feu a été mis à la ferme. Elle avait une grosse somme d'argent d'un marché tenu la veille ou l'avant-veille. Alors, La police, là aussi c'est quand même un peu étonnant, parce que la police fait prendre des empreintes digitales de, quand même, hein, déjà, hein, de tous ceux qui ont approché la fameuse fermière, la victime, sauf les empreintes de Petiot, parce que c'est le maire, on ne peut même pas prendre les empreintes du maire quand même. Et donc, schlac, le voilà encore qui échappe. Jusqu'à ce que tout de même, bon, le vox populi bascule un tout petit peu du côté des anti-petiotistes, et que Petiot finit par être carrément destitué de son mandat de maire. Et là, ben, il comprend quand même que le tapis brûle à Villeneuve-sur-Yonne, et il s'en va effectivement s'installer à Paris, rue Caumartin. Alors là, il a un sens extraordinaire de la publicité, il pond un prospectus invraisemblable de 2 pages, qui guérit tout, c'est presque un médecin magique.
Alors, en fait, cette plaque, c'est celle qui a été apposée devant son cabinet au 66 rue Caumartin.
Sarah Bouillon-Kessler.
Donc, c'est une plaque, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein, elle est très cossue, on a les lettres dorées sur fond noir, notamment. Et en fait, quand on commence un peu à lire ce qu'il propose en termes de spécialité, on va avoir des choses
un
peu plus fantasques.
UV, IR, attaché libéral à la pitié, diathermie, monsieur directeur de la clinique, fièvre artificielle, médecin chef de l'office médical permanent de la Seine. Ionisation, radiothérapie. 66 rue Caumartin, premier étage, Paris 9e. Radium, ozonothérapie et toute électrothérapie. Téléphone, Pigalle 77 11. Médecine générale, chirurgie, métro Saint-Lazare et Caumartin. Accouchement, neurologie, endocrinologie, maladies infectieuses et du sang, varices, ulcères, paralysie, rayon X, tumeur.
Et alors vous allez dire, mais les gens fonctionnent comme ça, ils acceptent ce type de publicité. Il faut croire que oui, hein, parce que très très vite, donc rue Caumartin et son cabinet commencent à bien fonctionner. Mais c'est en même temps quelqu'un de très, comment dire, disponible. Il fait partie des médecins qui se déplacent.
De bouche à oreille, les gens viennent et il a rapidement une très forte clientèle. Alors comme il a de l'argent, eh bien il va acheter des immeubles. Il achètera un immeuble à Paris, rue de Reuilly, il achètera un immeuble à Auxerre, un autre à Courson-les-Carrières où habite un de ses amis, Neuhausen. Tout va très bien pour lui, le petit grandit, il est heureux, il va au cinéma en famille, il adore les romans policiers, il va à l'hôtel Drouot acheter des objets de collection.
J'ai un de mes voisins de Caen, monsieur Francis Bénard, qui je crois qu'est décédé maintenant, a connu Petiot, parce que ses parents allaient à la plage, à côté de Berck-Plage, je ne me souviens plus du nom, d'une petite plage tout à fait modeste, battue par les vents du nord, et leur voisin de plage, c'était Petiot. Et il jouait avec le fils de Petiot. Et je lui demande de me décrire Petiot. Et il décrit Petiot comme un être parfaitement calme, détendu, aimant les enfants, un bon médecin, un bon frère de famille, un bon voisin, un bon plagiste, un bon tout ce que vous voulez. Donc 2 Petiots plutôt qu'un.
Et puis, en 36, finalement peu de mois après son arrivée, il est devant la librairie Gibert, Boulevard Saint-Michel, il feuillette un livre qui vaut 25 francs, il le met dans sa poche et il s'en va.
Le 6 avril 1936, à 12h30, le nommé Petiot a été surpris en flagrant délit de vol d'un livre d'une valeur de 25 francs. Aide-mémoire de l'électricité, de la mécanique.
C'est le rapport en fait qui s'appelle rapport médico-légal, mais qui est en fait une expertise psychiatrique, donc qui a été menée sur Petiot après son arrestation dans le quartier latin. On explique en fait ce qui s'est passé donc dans les faits, qu'il a volé ce livre, mais qu'il s'est défendu en disant mais non, je ne l'ai pas volé volontairement. En fait, je me suis laissé distraire. J'étais distrait parce que j'étais en train de réfléchir à des techniques, un procédé pour créer ma machine, une machine révolutionnaire qui se voulait être une pompe pour matière fécale, enfin pour les constipés.
Les conditions de son appréhension par les vigiles sont un petit peu singulières, puisqu'il raconte qu'il était dans la lune, qu'il ne pensait pas à ce qu'il faisait, et puis il va partir, il va être convoqué par la police, il va être examiné, il va être interné.
Petiot, Marcel, docteur en médecine, inculpé de vol, est atteint de troubles mentaux complexes caractérisés par les symptômes suivants. Premièrement, accès dépressif avec aboulie, inertie, découragement, dégoût de l'existence, vive anxiété, sanglots. Deuxièmement, déséquilibre psychique paraissant ancien, avec instabilité et bizarrerie dans l'entête de ses feuilles d'ordonnance, titre inexistant, sans valeur et sans réalité. Paris, le 22 juillet 1936. Signé Docteur Cellier.
Et Léniel Lavastine est sollicité pour faire une expertise parce que Marcel Petiot a demandé sa sortie de l'hospitalisation d'office.
Je viens solliciter de votre bienveillance de me faire examiner dans les plus brefs délais par un médecin expert, souligné, médecin expert, sous-entendu que le précédent ne devait pas l'être, en maladie mentale. Je me mets sous votre protection et j'espère que justice me sera rendue.
Et Léniel Lavastine ne va pas se contenter de la mission qui lui a été confiée. Bien entendu, cette mission, il aurait pu la faire en 5 minutes. C'est-à-dire que l'état clinique de Marcel Petiot ne justifiait plus du tout d'un internement. Donc la mesure devait être levée. Il aurait pu le faire en 5-10 minutes. Mais son attention quand même a été attirée par la singularité de sa personnalité. Il ne s'est pas contenté de cet examen, il ne s'est pas contenté des expertises antérieures, notamment celle de Cellier. Il a été chercher son dossier, il a écrit à la préfecture de police, il a écrit à Fleury-les-Aubrais, où Petiot avait été hospitalisé à l'âge de 17 ans. Il a fait une enquête militaire, donc il a été intrigué par le personnage. Il fait la synthèse de tout ça, et son expertise, elle se différencie des expertises précédentes parce qu'elle n'est pas une photographie. Elle est une tentative de saisie de la complexité du personnage. Donc, il aboutit à la conclusion que, bien sûr, la mesure peut être levée, mais que, compte tenu de la singularité de cette personnalité, probablement on entendra à nouveau parler de ce bonhomme.
Très très vite, Petiot commence à avoir une clientèle de drogués. C'est-à-dire que son cabinet va fonctionner d'autant mieux que, progressivement, il va donner des ordonnances de complaisance aujourd'hui on dit toxicomane, mais je dis drogué pour être dans le vocabulaire de l'époque. Et donc il fait des ordonnances de morphine. Alors là encore, il est très malin parce que la police très vite s'intéresse à lui. Le commissaire de police du quartier a noté un de ses prospectus de 2 pages qui guérit tout par les rayons en disant « il suffit de lire entre les lignes pour avoir une idée du personnage ». Et donc la police va très très vite comprendre qu'il devient un médecin complaisant avec des ordonnances de complaisance pour les drogués. Mais alors là aussi il est malin parce qu'il dit « ah mais attendez, moi je les désintoxique ». Et pour les désintoxiquer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prescrire de la drogue. À petite dose, mais pour qu'il se désintoxique lentement. Et il échappe de nouveau au tribunal. Là, c'est un des mystères de l'affaire Petiot. Comment est-ce qu'il va passer à l'individualité de meurtrier? Probablement que la guerre, l'occupation, les disparitions, les exécutions vont certainement favoriser un passage à l'acte de Petiot. Sa première victime, c'est tout de même un de ses clients toxicaux. Voilà ce type qui est arrêté par la police, qui va probablement parler et qui va disparaître. Alors on ne voit pas Petiot le tuer. Mais enfin, ensuite, il y a un deuxième cas. Deuxième arrestation, toujours pour des affaires de drogue, d'une femme, hop, elle disparaît. Le seul qui est dans le paysage et qui a tout intérêt à ce que cette disparition ait lieu, c'est Petiot. Mais rien, pas de preuve, donc pas d'inculpation. Donc les premières victimes de Petiot, ce ne sont pas des juifs, mais ce sont deux toxicomanes qui sont sur le point d'envoyer Petiot au tribunal, justement. Donc, il est tout à fait possible que le premier meurtre commis par Petiot soit un meurtre, comment dire, d'urgence.
Il y a parmi les voisins de Petiot un fourreur, un nommé Gouchinov. Il est juif. Très inquiet, 42, c'est un moment où les grandes persécutions sont entreprises. Et il se confie à Petiot, qu'est-ce que je peux faire? Et Petiot lui dit, mais vous n'avez qu'à passer en Amérique du Sud. Mais comment passerai-je en Amérique du Sud? Bien moi j'ai une filière. Vous n'avez qu'à réaliser tous vos biens, vous mettez tout ça dans une valise et vous venez. Avec ma femme? Non, pas avec votre femme. Elle vous rejoindra plus tard.
Et un soir de 1942, Madame Gouchinov conduit son mari jusqu'à la rue Pergolèse. C'est là qu'elle va lui dire adieu, il porte sa valise. Et on ne reverra jamais le fourreur Gouchinov. Presque au même moment, le docteur Breinberger, médecin juif, lui aussi est effrayé. Même proposition de la part de Petiot. Le docteur Breinberger disparaît près du métro Étoile, on ne le reverra jamais.
Les malheureux juifs qui essaient de quitter Paris, bon, ils sont quand même plus nombreux que le citoyen de l'Indre ou de la Creuse. Hein. Et quand ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur valise? Ce qu'ils ont de plus précieux. Et donc, Petiot tue pour voler. Et il va donc convaincre des candidats à l'évasion qu'ils bénéficient d'un réseau d'évasion. Mais le réseau d'évasion s'arrête, en effet, rue Le Sueur. Mais quand même, il va tout de même être suffisamment connu pour se faire arrêter par la Gestapo. Il va rester enfermé pendant près d'un an, torturé, questionné. Pas un mot. Il ne bronche pas, mais il faut quand même qu'il donne une explication. Il dit qu'il n'est qu'un petit maillon dans un réseau d'évasion qu'il dépasse complètement. Oui, mais quand même, il est complice du point de vue de la Gestapo. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Alors ça, on fait partie des mystères. Hein. Il est relâché.
Alors il se va se reposer à Auxerre, et quand il rentre, nous sommes là en 44, sa femme qui ouvre le courrier lui dit « Oh, voilà quelque chose de bien embêtant. Les Allemands réquisitionnent la rue Le Sueur. » « Quoi ? Oui, notre hôtel particulier, la rue Le Sueur. Tu dois le donner le 15 mars. » Et on est au début du mois de mars. Et c'est alors que vont commencer les grands feux, rue Le Sueur.
À suivre, épisode 2, l'énigme de la folie humaine.
À tout service, préfecture de police, police nationale, gendarmerie service, nationale. Il y a lieu de rechercher activement Petiot, Marcel, André,
il y a lieu de rechercher activement Petiot, Marcel, André, Henri, Félix, né le 17 janvier 1897 à Auxerre,
avec Claude Quetel, historien, Yon, Daniel Zaguri, psychiatre et expert, Agnès Masson, chef du service de la mémoire et des affaires culturelles, Anne-France Serigliani, Sarah Bouillon-Kessler, Saglia Benjebourg, du musée de la préfecture de police de Paris.
Petiot est susceptible de circuler sur une bicyclette d'homme de couleur verte, immatriculée 3866 RD7.
Archivina Véronique de Saint-Pastou, lecture des textes Yannick Choira, documentation Annie Signoret.
Cheveux châtains foncés,
Petiot, Marcel, doit être considéré comme dangereux.
Prise de son Romain Luquins, mixage Pierrick Charles, attaché d'émission Sylvia Fabre, coordination Christine Bernard.
Au cas de découverte, maintenir le nommé Petiot ainsi que sa femme et aviser sans délai la préfecture de police, direction.
C'était l'affaire Petiot, au numéro 21 de la rue Le Sueur, un documentaire de Joanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulot.
Paris, le 13 mars 1944, le directeur général de la police judiciaire, Tanguy.
Nous sommes allés danser. Et tout d'un coup, il y a un monsieur tout à fait sérieux qui était venu me invité à danser, j'ai été très flattée. Surtout que ce monsieur m'a beaucoup plu avec ses yeux. Il avait des yeux formidables. Grand, grand et très impressionnant. J'étais impressionnée que je danse avec un si grand monsieur. Et puis, pendant la danse, j'ai appris qu'il était docteur. Alors, il a dit, mais vous toussez? J'ai dit, oui, monsieur, je tousse. Alors, il m'a dit, mais écoutez, venez me voir. Et nous avons pris rendez-vous. Deux jours avant ce rendez-vous, j'ouvre le journal, je vois sa photo.
La suite de l'affaire Petiot, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.